Toute personne a le droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données la concernant. La loi d'octobre 2016 pour une république numérique est très claire, en complément de ce qu'indiquait déjà d'ailleurs la loi informatique et liberté à la fin des années 70. Même à l'ère numérique qui est la nôtre, la protection des libertés individuelles reste l'axe central de notre législation. Et les règles européennes qui entreront en vigueur au mois de mai prochain viendront encore le confirmer. Les organismes publics et les entreprises doivent s'y préparer, mais comment s'assurer du respect de la loi? Comment maîtriser les données qui nous concernent? Comment garder notre autonomie dans un monde de plus en plus connecté? C'est le sujet du Téléphone Sonne ce soir. Vos questions au 01 45 24 7000, sur Twitter, hashtag Telson, ou par mail franceinter.fr.
Yves Decamp, le Téléphone Sonne.
Et pour en débattre, bonjour à vous trois, Isabelle Falque-Pirotin, présidente de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, Isabelle Attard, ex-députée du Calvados, auteur de nombreux amendements sur la loi numérique, Arthur Messot de la Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Et donc, bonjour à vous, Isabelle Falque-Pirotin, présidente de la CNIL. Donc d'abord un mot, quel est le rôle de la CNIL dans cette affaire? Vous avez un rôle de conseil, hein, rappelons-le, mais aussi de rappel à l'ordre.
On a un rôle de conseil, on a un rôle d'accompagnement, on a un rôle de sanction pour effectivement ceux qui ne respectent pas les orientations de la loi. Mais je crois que votre introduction a bien dit les choses. On est dans une situation où l'individu maintenant veut avoir la maîtrise de ses données. Donc nous essayons d'accompagner cette évolution.
Alors, première question avec Thierry qui nous appelle, je crois, de Craponne. Bonjour Thierry.
Bonsoir. Dès que nous sommes connectés à Internet, nous sommes suivis. Quelle est l'opinion de vos intervenants?
Oui, autrement dit, à quoi bon essayer de se protéger? C'est ce que vous voulez dire, Thierry?
Bon, je donne un exemple. Dès que j'ai appelé France Inter, ils m'ont rappelé 30 secondes plus tard en me disant...
Ah oui, mais ça, c'est votre numéro de téléphone.
Nous vous connaissons, France Inter me suit.
Je crois que la remarque de votre auditeur est très juste. On entre dans un univers où, je dirais, le profilage, le ciblage est invisible. Et il est quasiment systématique par rapport à tout ce que nous faisons en ligne, voire ce que nous faisons dans la vie physique. C'est-à-dire que notre navigation en ligne permet de nous profiler de façon fine, auxquelles s'ajoutent nos données de géolocalisation, les données qui sont collectées, surtout les petits outils que nous avons à notre main, nos montres connectées, nos compteurs communiquant dans la maison, etc. Et donc, effectivement, chaque individu a l'impression d'être passé à travers un tamis qui sert beaucoup aux entreprises et peu à lui-même. Et donc, je crois que l'enjeu de cet univers numérique, c'est faire remettre l'individu au centre et lui donner la possibilité d'exercer ses droits et, le cas échéant, de dire « ça, je ne veux pas ». Par exemple, partager ma géolocalisation avec toute une série d'acteurs économiques.
Alors, Isabelle Attard, donc vous êtes ex-députée du Calvados, je le rappelle, vous avez présenté de nombreux amendements à l'époque de la loi numérique. Vous aussi, toujours dans le même sens, la protection des libertés individuelles.
Oui, et pas que la loi numérique, justement, parce que dans toutes les lois sur l'état d'urgence, la loi terrorisme et renseignement, on touche également, de toute façon, la notion des données personnelles, de leur utilisation. Ce que disait l'auditeur est très intéressant, c'est effectivement, dès que vous vous connectez, vos données peuvent être utilisées. Maintenant, il faut savoir quel est le consentement, quel est le degré de consentement des internautes pour telle ou telle finalité. Et c'est bien ça aussi qui est l'enjeu du règlement européen qui va être en application l'année prochaine, mais également ce dont il faut avoir connaissance en France aujourd'hui. C'est-à-dire que si je me connecte, si je consens à donner mes données pour une utilisation, c'est pas pour que qu'on utilise ensuite pour autre chose.
On voit dans les, voit dans les enquêtes que les automobilistes, par exemple, sont prêts à être plus suivis à condition que leur police d'assurance soit baissée, par exemple. Ils sont prêts à ça.
Mais dès qu'on a la notion d'argent, de négociation, de finalement, si on est propriétaire, parce que certains voudraient qu'on le devienne, si on devient propriétaire de nos données, ça veut dire qu'on peut les commercialiser et en retirer un bénéfice économique. Là, c'est un terrain extrêmement glissant.
Très intéressant, avec
différentes théories qui s'affrontent, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et personnellement, j'aime pas envie d'aller dans ce niveau-là, dans cette direction-là.
Arthur Messeau, vous êtes juriste à la Quadrature du Net, l'association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet.
Je vais partir juste de la question posée par l'auditeur. Donc, pour être pisté sur Internet, il faut votre consentement. Ça, c'est le droit actuel. Si vous dites pas j'accepte, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, comme
ça, c'est le principe.
C'est le principe.
C'est la théorie.
Donc, il y a deux
choses. Mais en réalité, c'est différent.
Dans la pratique, il y a une définition du consentement qui a été acceptée, qui était particulièrement large. C'était notamment le consentement implicite. Du moment qu'en bas d'une page, il y a marqué si vous continuez à naviguer sur ce site, vous acceptez telle et telle chose. Petite note que personne ne va lire, à ce moment-là, on va considérer que vous avez donné votre consentement. Alors, heureusement, sa situation a changé dans le droit qui va rentrer en vigueur en 2018. On va vous demander un consentement explicite qui exige un acte de votre part. Donc là, déjà, les personnes vont retrouver du contrôle, au moins, et de la maîtrise sur ce qui se passe. Mais ce que soulignait Mme Attard est vraiment l'enjeu du débat actuel. C'est est-ce que un consentement peut être négocié contre un service ? Est-ce que pour accéder au monde.fr, à Gmail, à Facebook, vous êtes obligé d'abandonner votre vie privée, d'accepter d'être fiché pour accéder à ce service. Est-ce que la vie privée, une liberté fondamentale, est l'équivalent de l'argent à une valeur économique ? Alors nous, très clairement, on dit que non. On dit que toutes les libertés fondamentales, le droit de vote, le droit de s'exprimer, le droit de se déplacer, de se marier, sont en dehors du commerce. Ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre contre de l'argent. Sinon, ce qui se passe, en fait, c'est ce qu'on voit déjà. C'est que si vous voulez avoir accès à un service qui est vraiment sécurisé, à un journal qui ne va pas vous pister, à des services respectueux, vous devez payer systématiquement. Et ceux qui ne peuvent pas payer, ceux qui ont trop peu d'argent, eux doivent payer avec leur vie privée et des libertés fondamentales. Et là, c'est clairement contraire aux idéaux démocratiques. Les libertés sont gratuites pour tous. On ne peut pas les vendre.
Mais comment fait-on ? Comment contrôler tout cela ? Isabelle Falque-Pirotin, par exemple.
Je crois qu'il y a toute une négociation qui se déroule avec ces grands acteurs de l'Internet qui, évidemment, au départ, n'avaient aucune envie de limiter la combinaison extrêmement extensive qu'ils font des données de leurs clients. Et depuis 4-5 ans, avec l'ensemble des autorités européennes de protection des données, on essaye de faire en sorte que cette combinaison excessive de données que font ces acteurs soit encadrée. Et que notamment l'individu puisse, selon les finalités qui sont poursuivies, pouvoir consentir ou éventuellement dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc si vous voulez, je crois que à la fois la pratique et puis l'évolution du cadre juridique qui donne des droits nouveaux aux personnes vont dans le sens, finalement, d'une maîtrise plus grande de l'individu. Mais moi, j'attire quand même l'attention des auditeurs sur la difficulté du consentement. Parce que qui dit consentement dit nécessité de comprendre ce à quoi on consent. Nécessité d'avoir un consentement qui soit simple à exercer. Or, sur tous ces sujets, dans le fond, les choses sont quand même assez complexes. Et donc, il ne faut pas non plus que l'ensemble de la charge de régulation pèse sur l'individu lui-même et qu'on lui demande en permanence de consentir à un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'il y ait effectivement du consentement, mais il faut aussi que les acteurs, dans leur pratique, intègrent aussi par défaut un certain nombre de garanties qui protègent les libertés individuelles et les données personnelles.
Alors justement, problème souvent d'information, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe au-delà de notre écran d'ordinateur. C'est le sens, entre autres, de la question de Sylvie, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, j'avais une question concernant le calendrier partagé. Nous avons un calendrier Google partagé que nous remplissons avec toutes les activités de la famille, les enfants. Et on s'est posé la question des garanties en fait de confidentialité concernant ces données très personnelles et qui sont versées dans le calendrier familial de Google. Y a-t-il un risque d'exploitation de ces données personnelles ? Et aujourd'hui, existe-t-il un autre calendrier partagé qui aurait une charte respectueuse de nos données personnelles ?
Qui peut répondre à cela ? Isabelle Attard.
Oui, c'est intéressant parce que je remarquais dernièrement que lorsque vous réservez un billet d'avion sur par Internet, l'horaire et le nom de la compagnie, etc., apparaissent directement justement dans votre agenda. Dans votre agenda Google, donc c'est très intéressant, sans que vous ayez rien fait, en tout cas en apparence. De toute façon, les données sont épluchées, sont auparavant les mails étaient scannés, le contenu des mails sur Gmail. Faut voir si la réglementation interne à Google aurait changé, mais toutes les données seront utilisées. Après, à des fins commerciales, évidemment. Évidemment, puisqu'on vous fera ensuite, et ça c'est important d'en parler dès à présent, de la publicité ciblée. C'est exactement le principe de l'utilisation des données, des métadonnées. Parce qu'il y a les données, c'est le contenu de vos messages, de vos échanges que vous faites avec des échanges mails, mais aussi avec vos SMS, avec toutes les applications de messagerie, quel que soit le nom de l'application. Et il y a les métadonnées, c'est-à-dire les informations. Telle que l'heure où vous passez, vous faites un message, vous écrivez un message, à qui, par quelle antenne relais passe votre message. On peut vous localiser sans que vous ayez cherché à l'être spécialement, mais votre téléphone correspond de façon régulière et permanente avec une antenne à proximité. Donc de toute façon, il y a déjà ces informations-là. Donc à nous de savoir comment réagir. Il y a la notion de responsabilité des utilisateurs, des internautes.
C'est-à-dire ?
Et d'être du réalisme. Peut-être ne pas forcément mettre toutes les informations sur ces agendas partagés. Mais il y a
ne plus utiliser un calendrier.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que...
On n'utilise plus de calendrier.
C'est les utiliser, mais s'assurer, et c'est ce que disait Isabelle Falpierrotin tout à l'heure, c'est-à-dire que les GAFA doivent assurer cette confidentialité et c'est ce qu'on leur demande. On doit pouvoir
les
utiliser
GAFA,
la technologie.
Google, Amazon, Facebook, etc.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui et il y a ce qu'on aimerait voir arriver pour la suite, pour la protection de nos données.
Arthur Messon.
Alors, je vais répondre directement à votre question en trois points. Alors, premier point, est-ce que Google analyse le contenu de votre calendrier? Alors là, j'ai pas les CGU sous les yeux, mais je peux vous dire que Google, en tout cas, son métier, c'est de faire de l'analyse des données privées pour faire de la publicité. Et quand on voit ce qu'il a fait sur le mail pendant des années, c'est-à-dire qu'il lisait le contenu des mails chaque envoyé sans le consentement de la personne qui écrivait à la personne Gmail systématiquement et qui faisait des fiches sur tous les correspondants, quand on voit que son activité principale sur c'était Gmail, c'était de faire ça, le calendrier, c'est assez évident qu'il doit y avoir une exploitation. Alors vous nous dites comment on peut faire autrement. Alors, pour un calendrier partagé, ça va être un problème. Pour chaque problème, il existe des solutions. Donc moi, je vous invite à vous rendre sur le site de Framasoft, qui est un site français qui propose des alternatives au service Google. Donc vous aurez votre solution, je pense. Mais prenons un peu de hauteur. Est-ce que vraiment, à chaque fois qu'il y a un service qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est pratique, que tout le monde utilise, que tout le monde connaît, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un service comme ça qui porte atteinte à nos droits fondamentaux, il faut que nous, on réfléchisse comment faire, qu'on demande à un ami geek, est-ce que tu connais l'alternative, etc. Est-ce que c'est à nous de faire l'effort ou est-ce que individuellement, avec nos connaissances technique limitée, ou est-ce que c'est pas à ceux qui ont la puissance intellectuelle, la capacité technique, eux, de faire cet effort-là, de ne serait-ce que nous demander le consentement avant d'exploiter notre vie privée.
Et on peut ne pas utiliser Google, il existe d'autres services, Quant,
citons-le. Mais c'est pas à nous de faire des efforts. Mais c'est pas à nous de faire des efforts, en fait, c'est au législateur d'imposer à ces personnes qui ont la maîtrise de la technique la plus poussée de le faire. Si on demandait à chaque individu d'être un expert en technique pour protéger ses libertés fondamentales, c'est un doux rêve, ça n'arrivera pas. On n'aura pas les capacités. Eux, ils ont les capacités.
Isabelle Falk-Pierrotin.
Oui, je crois que, comment dire, il y a un rapport de force qui doit s'équilibrer, se rééquilibrer entre les individus, les citoyens européens et ces grands acteurs mondiaux. Ces grands acteurs mondiaux, jusqu'à présent, considéraient le gisement de données personnelles comme un gisement, je dirais, exploitable à l'infini et permettant tout type de combinaison selon tout type de finalité. En gros, quelle que soit la manière avec laquelle vous interagissiez avec Google, les données qui étaient collectées à cet effet étaient mutualisées et servaient au profilage. Depuis quelques années, entre les autorités européennes de protection des données, il y a une coopération qui conduit à dire à Google « cette combinaison tout azimut n'est plus possible ». Cela va prendre un peu de temps que le modèle économique et les pratiques de l'entreprise s'ajustent totalement. mais il est évident que grâce au cadre juridique européen, grâce aussi aux pratiques nouvelles des personnes, on a la possibilité de rééquilibrer le rapport de force. Mais moi, je crois quand même que, même si ça n'est pas aux individus, effectivement, de se protéger en permanence, on a quand même aussi à intégrer un certain nombre de réflexes de base dans cet univers numérique. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Quand on dit aux jeunes, faites attention sur les photos que vous postez, sur les comptes que vous avez, quand vous avez 10 comptes, n'ayez pas 10 fois le même mot de passe pour éviter que tout ceci soit mutualisé. Si vous voulez, ça fait partie d'une hygiène aussi et une prophylaxie de base qu'il faut avoir dans ce nouvel univers connecté. Donc je crois que c'est tout un ensemble de leviers qui permettent in fine de garder une forme de régulation de cet univers.
Autre question, celle de Bertrand qui nous appelle d'où ça, du Gosier. C'est ça Bertrand?
Oui,
le Gosier. Où est-ce que c'est le Gosier?
C'est à la Guadeloupe.
Très bien, nous vous écoutons.
D'abord merci pour vos émissions qui illuminent le début d'après-midi avec le décalage horaire pour nous à la Guadeloupe.
Eh oui.
La question que moi je me posais, c'est que ces données qui sont, en tout cas pour mon compte, captées à mon insu, parce que je souscris jamais à la distribution de celles-ci, ces données ont une valeur marchande que les opérateurs se revendent entre eux. Cette marchandisation de nos données, elle nous échappe en termes de bénéfices. Est-ce que ça, ça pourrait être pris en compte, corrigé? Est-ce que les propositions dans ce sens pourraient être mises en œuvre de telle sorte que notre consentement à ce moment-là aurait en contrepartie un bénéfice?
C'est ça, on pourrait être rémunéré sur le commerce de nos données personnelles.
C'est déjà le cas, en fait.
Arthur
Messot. Vous avez accès à des services pour lesquels vous ne payez pas contre votre vie privée. Donc en fait, déjà, on est déjà rémunéré en échange de notre vie privée, nos données personnelles. Et en fait, ça ne va pas du tout, parce qu'on est rémunéré... D'abord, c'est même pas si c'est le prix qu'on paie, il est justifié. En vrai, 1 euro par mois pour un service mail, est-ce que c'est pas beaucoup plus intéressant que de livrer toute sa vie privée, de se laisser ficher, etc. Donc c'est déjà le cas, en fait, la proposition dont monsieur parle, et c'est une situation qui ne va pas du tout. On voit des écarts entre les plus riches et les plus pauvres se créer en termes de qui peut se protéger, avec quels moyens, en fonction des services auxquels on a accès. Et comme je vous le disais au début, l'idéal démocratique s'oppose à cette marchandisation de la vie privée.
Isabelle Attard.
Il faut pas oublier que dans nos données personnelles, il y a aussi les données des autres. Et que la propriété de nos données contiennent effectivement des tas d'informations qui concernent un cercle extrêmement large de personnes autour de nous. Donc, quand on réfléchit à cette commercialisation, finalement, des données, à partir du moment où on admettrait que nous sommes propriétaires à titre individuel de nos données, c'est déjà relativement faux de manière intrinsèque. Et ensuite, je préfère réfléchir comme le fait le collectif Savoir Commun avec Lionel Morel, c'est de voir les données comme un ensemble de données collectives, c'est comme les biens communs. Et à ce moment-là, on réfléchit différemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de commercialiser des données et de dire, bon, bah, puisque Google ou puisque d'autres GAFA ou d'autres services sur Internet utilisent les données que je produis, c'est important de le rappeler, je dois en tirer quelque chose, une compensation financière, puisqu'ils utilisent mes données. Moi, je préférerais qu'on réfléchisse en termes de collectif. Nous créons des données, collectivement parlant. Comment faire pour que ensuite on puisse se protéger? Comment retirer ce consentement? Parce que ce qui est important à rappeler dans le règlement européen qui va être bientôt en application, c'est dans les mots, c'est très clair. Isabelle Falpierrotin parlait tout à l'heure de clarté. Et c'est écrit. Le consentement donné par un acte positif, clair. Parce qu'aujourd'hui, si on doit se farcir, pardon du terme, 200 ou 300 pages de conditions générales d'utilisation pour savoir exactement comment nos données vont être utilisées, je n'appelle pas ça clair, j'appelle ça pas facile. Et c'est mettre encore plus de complexité dans le monde du numérique alors qu'on a besoin de davantage de clarté.
Alors
Oui, juste une réaction sur cette idée de finalement de marchandiser ses propres données. Je crois que c'est très dangereux comme évolution parce que ça risque de mettre en place une sorte de système numérique à plusieurs vitesses. Vous voyez, avec des marchés de la donnée en fonction de l'arbitrage que les uns et les autres feront. Donc je crois qu'il y a une tendance qui est potentiellement assez dangereuse finalement pour les droits des personnes. Mais ce que je veux dire néanmoins, c'est que en fait on a déjà des bribes de moyens pour l'individu, finalement, de piloter lui-même ces données dans le nouveau règlement européen à travers, par exemple, le droit à la portabilité des données. Parce que le droit à la portabilité des données, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir récupérer toutes les données que vous avez fournies, y compris celles qui ont été déduites de ce que vous faites sur Internet, pour soit les garder pour vous et en faire ce que bon vous voulez, soit éventuellement le porter auprès d'un autre fournisseur de services. Et donc là, on voit bien que c'est un moyen, non pas de créer un marché secondaire de la donnée, mais de créer la possibilité pour l'individu, finalement, de ne pas être prisonnier d'un écosystème industriel ou commercial par rapport à un autre.
Rien ne vous garantira qu'elles seront supprimées.
Elles ne seront pas supprimées. Non, ça, il n'y a pas de suppression de la donnée. En revanche, c'est une ouverture à la concurrence et c'est le moyen de ne pas être prisonnier d'un acteur qui me paraît très intéressant.
Autre point de vue, celui de Ludovic qui nous appelle de Thiers. Bonsoir Ludovic, nous vous écoutons.
Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors c'est plutôt en fait effectivement en résonance à l'intervenant précédent. En fait, la question c'est peut-être aussi de la poser peut-être en termes un peu d'hypocrisie. Aujourd'hui, tout le monde utilise, ou presque tout le monde, des réseaux sociaux, des applications qui sont sur le téléphone, ou donc le smartphone, et qui sont d'accès gratuit. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen économique de faire en sorte que des entreprises qui fabriquent ce type d'applicatif ou de réseau puissent survivre tout simplement économiquement sans monétiser la donnée, vu que les services sont gratuits. En fait, ma question derrière est, voilà, tout le monde utilise tout cela, voudrait protéger la totalité de ce qu'il fournit, mais en même temps n'est pas prêt du tout à payer le moindre centime pour l'utilisation de tous les applicatifs. Je passe sur la musique, etc., mais et sur les réseaux sociaux en particulier. Donc voilà, c'est ça prolonge un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je suis pas trop pour la monétisation non plus des données à titre personnel. Mais comment faire pour que ces entreprises aient envie de développer, mettre des milliers de programmeurs derrière qu'il faut rémunérer, tout simplement.
Donc pour vous, l'attitude de ces entreprises, en quelque sorte, elle se défend.
Alors c'est pas qu'elle se défend. J'ai pas dit que c'était la bonne solution. Est-ce que après on peut tout imaginer un Internet mondial étatisé qui protège le tout, peut-être. Mais aujourd'hui, vous ne ferez pas travailler les gens de Facebook ou de Google gratuitement s'ils n'ont pas de moyen de récupérer une monétisation de l'information qu'ils ont.
Alors, Arthur Messot.
Ouais, deux choses. Une première chose, ce discours, les gens sont plus prêts à payer. En fait, toutes les entreprises un peu sérieuses qui ont besoin de sécuriser leurs informations ou qui font un vrai travail vont payer. Elles vont payer, et même Gmail, il y a des versions payantes de Gmail, il y a des versions payantes de Facebook. Donc en fait, des ressources monétaires directes, il y en a plein. Ensuite, l'idée de où est-ce qu'on va trouver des développeurs ou des contributeurs prêts à s'investir gratuitement. Est-ce que vous avez entendu parler de Wikipédia, qui est l'encyclopédie la plus importante au monde, qui est gratuite, faite par des bénévoles, sans modèle de surveillance de la population. Est-ce que vous avez entendu parler de VLC, un lecteur vidéo qui est gratuit et qui est fait par des bénévoles encore, de Linux, de Firefox, toutes ces choses qui en fait sont des produits du logiciel libre extrêmement poussés en termes de sécurité, extrêmement intéressantes, systématiquement gratuites, faits par du bénévolat ou des systèmes économiques alternatifs. Et même quand on parle de communication, sur votre téléphone, vous dites que vous avez plein d'applications, vous avez peut-être Signal, qui est aussi gratuite et qui ne fait pas d'exploitation de vos données personnelles. Vous allez avoir comme ça toute une panoplie en fait de logiciels libres qui sont déjà ou libres ou décentralisés, qui sont déjà sur le marché, qu'on utilise au quotidien, mais Firefox typiquement beaucoup de gens l'utilisent. Cette idée qu'on a absolument besoin de surveiller la population pour pouvoir financer les avancées techniques est fausse. Les avancées les plus intéressantes dans la technique se sont financées autrement.
Donc il faudrait, de votre point de vue, débarrasser Internet de toute considération commerciale.
Il y a différentes formes
de considération commerciale. Des entreprises qui en vivent de tout cela, c'est ce que nous disait Ludovic.
Bien sûr, Firefox, je continue sur cet exemple-là, ils ont plein de salariés, ils ont beaucoup d'argent. Wikipédia, ils ont derrière aussi des structures où il y a des salariés, et ça marche soit par le don, soit par ils vont fournir des services payants de conseils à des entreprises, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'une économie qui repose sur la surveillance de sa population, contre leur consentement, ou en consentement forcé, est une mauvaise économie. C'est pas très compliqué à dire. Et il y a des solutions alternatives qui marchent depuis le début. Internet, l'informatique s'est développée sans ce modèle économique-là.
Isabelle Falque-Pierrotin.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire
Arthur Messot.
Je crois que l'ère, en tout cas, du chèque en blanc au bénéfice des GAFA est terminée. Ça me paraît clair. C'est-à-dire que les individus ne sont peut-être pas prêts à payer pour les services qu'ils ont aujourd'hui gratuitement. Ça, je crois que la majorité, quand même, ne sont pas prêts à payer. En revanche, ils veulent avoir leur mot à dire. Donc je crois que toutes les solutions alternatives, soit qui offrent d'autres modèles économiques, soit qui donnent la possibilité à l'individu de consentir ou d'avoir un retour et une capacité, je dirais, d'arbitrage, sont des modèles qui sont extrêmement intéressants et qui se développent. Maintenant, est-ce qu'on peut totalement abandonner le payant? En tout cas, pour le moment, je ne crois pas.
19h42.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Et nous parlons ce soir au téléphone sonne de la protection des données personnelles sur Internet avec cette question qui nous arrive par mail à propos de la nouvelle réglementation européenne. Elle impose aux entreprises, donc à partir de mai 2018, un délégué à la protection des données. Alors quel sera son rôle précis et son positionnement au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillera ?
Alors je crois que le délégué, c'est un personnage central dans le règlement, puisque en fait ça va être la personne qui va être chargée de la gouvernance des données au sein de l'organisation ou entreprise auquel il appartient. Donc en fait c'est la personne qui va faire en sorte que dans les usages quotidiens de l'entreprise, de la collectivité locale où il se situe, eh bien dans ces usages quotidiens on a intégré les principes et les garanties de protection des données personnelles.
Toute entreprise devra avoir son délégué.
Alors, la plupart des grandes entreprises qui font du traitement à grande échelle, les collectivités locales, les acteurs publics devront l'avoir. Donc, en réalité, aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un chiffre, nous avons environ 16 000 organismes qui ont désigné un correspondant informatique et liberté, qui, celui-ci, n'est pas obligatoire aujourd'hui. Nous considérons à la CNIL que nous aurons à peu près entre 80 000 à 100 000 organisations qui auront un délégué à la protection des données demain.
Ça va créer de l'emploi.
Donc ça va créer de l'emploi.
Mais ça va coûter cher.
Ça va coûter cher ou ça va obliger en tout cas les entreprises à identifier une fonction interne suffisamment proche des métiers pour distiller dans ces différents métiers la R&D, le marketing, les préoccupations informatiques et liberté, mais aussi suffisamment proche de l'échelon de direction de l'entreprise pour avoir une vision stratégique de ces questions. Donc c'est un personnage absolument central pour la conformité future en matière informatique et liberté.
Isabelle Attard.
Oui, j'espère que les entreprises françaises sauront réagir, parce que pour le moment, c'est vrai que c'est... Au sein de l'Union européenne, on voit une grande différence avec les pays anglo-saxons où c'est quelque chose de très d'habituel, la prise en compte des données personnelles, des requêtes des clients, des entreprises. Je pense que ce sera plus facile pour certains pays que pour d'autres. Et la France a l'air d'avoir un petit peu de retard. Bon, j'espère que ça ira mieux dans quelques mois.
Enfin, c'est ce que c'est l'analyse de retard que les autres.
Au niveau entreprise, oui, tant mieux si ça va mieux.
C'est ce que disent les enquêtes. Plus de 90% des entreprises, pour l'instant, n'y ont pas réfléchi à cette histoire.
Je pense que ça va venir. Il y a des pays où c'est plus un réflexe que d'autres. Il faut quand même le reconnaître. Après, je pense que dans ce règlement, ça serait bien de parler du droit à l'oubli.
Qui a été reconnu par la Cour de justice européenne.
Oui, parce que finalement, les clients d'une entreprise pourront le demander. L'entreprise doit être capable d'identifier l'ensemble des données qu'elle possède sur ses clients, de savoir où ces données sont localisées et d'être capable de les supprimer rapidement. Ça, c'est le texte tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ça, c'est très intéressant parce que là, pour moi, c'est une avancée. Est-ce que, d'un point de vue technologique, on arrivera à le faire ? Est-ce que, je ne sais pas.
Le contrôler, verra, surtout.
Alors, le droit à l'oubli, ça existe déjà. En réalité, ça existe déjà. Ce qui est nouveau, c'est ce droit à la portabilité. Qui, lui, est vraiment nouveau, puisque, effectivement, la personne peut récupérer toutes les données que l'entreprise a sur elle et les récupérer dans un format qui est lisible, éventuellement, par d'autres. Ça, c'est une vraie nouveauté. Mais le droit à l'oubli stricto sensu et le droit à la suppression des données, le droit d'accès, ça existait déjà dans la directive de 1995.
Ce que je veux dire, c'est que, on parlait de clarté tout à l'heure, c'est loin d'être clair. C'est-à-dire, ce qui est simple, c'est de donner l'accès à ces données personnelles, en retirer l'accès ou les contrôler. On est bien aujourd'hui dans ce dilemme-là. C'est-à-dire que le droit à l'information, la transparence dans l'utilisation des données, dans la finalité, on n'y est pas du tout. Le droit d'opposition, le droit de rectification, c'est là, je pense, qu'on doit mettre tous nos efforts. En tout cas, on ne parle pas de, par rapport aux données personnelles. Bon, beaucoup d'auditeurs parlent de propriété des données. Moi, je pense qu'on doit surtout se concentrer sur le contrôle de nos données. Et ça, c'est là-dessus, à mon avis, que les réglementations doivent travailler.
Donc, Arthur Messot.
Là, on vient de parler de deux avancées du droit européen intéressantes, positives, donc le délégué à la protection des données, la portabilité, le droit à l'oubli, et parlons aussi des avancées négatives qui se profilent. Là, à la rentrée, en octobre, tout ce qu'on vient de dire va être remis en cause complètement au niveau de l'Union européenne par un règlement e-privacy. Donc dès octobre, les votes les plus importants vont arriver. Et là-dedans, on voit quoi? On voit en fait plus besoin de consentement pour analyser vos mails, vos communications sur Internet. Votre FAI Orange pourra ouvrir, pour avoir passé tout ce qui passe sur son réseau et le lire pour faire de la pub ou autre chose. Disparition du consentement. Disparition du consentement pour être géolocalisé. Donc si vous entrez dans un magasin, on va pouvoir savoir quel chemin vous faites, combien de temps vous restez, avec qui, sans votre consentement, juste. Il suffira d'un petit panneau caché quelque part ou devant qui vous informera. Donc il y a énormément de questions. Toutes les avancées qui sont apparues sont en train d'être remises en cause radicalement devant l'Union européenne dans ce règlement e-privacy. Donc je vous invite à suivre l'actualité de ce règlement dès la rentrée, dès septembre. Il y aura de nombreux débats sur le site de la Quadrature ou de la CNIL qui reviendra dessus aussi, je pense. Ça fait vraiment, tout va être mis en jeu. Et en bien, c'est possible, mais en très mal, ça, pour l'instant, ça se dessine plutôt vers la direction très négative.
Autre question de Thierry qui nous appelle je ne sais d'où. Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Eh bien, en fait, je vous appelle du Danemark où je suis en congé.
C'est très international ce soir.
Je vous écoutais. Donc, je voulais réagir plutôt que de poser une question sur une des choses qui a été dite tout à l'heure. Le droit à l'effacement des données est aussi inclus dans la nouvelle réglementation sur les données privées, la GDPR qui sera active en 2018. C'est l'article 17. Donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, il sera possible demain de demander à la fois de porter les données, de les transférer. Par exemple, je demande à ce que mes données détenues par Amazon soient transférées à la FNAC, mais aussi de demander à effacer ces données. Donc en même temps, je demande à Amazon d'effacer mes données. Et ça peut ouvrir un champ complet de capacité à déterminer qui peut finalement utiliser mes données et qui ne peut ne pas les utiliser. Et même si on pousse un petit peu plus loin le bouchon, on peut se dire que à terme, il y aura des détenteurs de coffres-forts de nos données. Et donc ces entreprises seront celles qui dans lesquelles je transférerai mes données pendant qu'en même temps, je demanderai aux autres de les effacer.
C'est la portabilité dont vous parliez tout à l'heure, Isabelle Falpirotin.
Je crois que ce que dit notre auditeur est tout à fait juste. C'est vrai que on a une double possibilité avec le règlement, mais moi je voudrais quand même juste insister sur le fait que, bien sûr, ce texte n'est pas parfait. Il est complexe, il est touffu, mais il représente quand même l'effort qu'a fait l'Union européenne d'unifier son marché et surtout de lancer un signal très important qui est: les données personnelles et leur protection, c'est un enjeu majeur parce qu'il y a une échelle de sanctions qui a été considérablement revue avec des sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial potentiel de ces entreprises-là. Donc si vous voulez, on change, entre guillemets, de nature de réponse. Et même si la rédaction n'est pas parfaite, même s'il y a besoin de plus de clarification, on a quand même maintenant un outil à travers le règlement de dissuasion vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs mondiaux qui est quand même extrêmement puissant, me semble-t-il. Si vous ajoutez le fait que dans le règlement européen, nous avons la capacité entre 28 autorités européennes de régulation de co-décider à 28, ça va être le seul domaine de droit européen où 28 régulateurs ont la possibilité de prendre ensemble une même décision. Donc, si vous voulez, là, l'Europe, quand même, arrive avec un certain nombre d'arguments.
Juste une précision avant de prendre Cécile au téléphone. On aurait peut-être dû commencer par là. Quelles sont les informations concernant les salariés qu'une entreprise a le droit de collecter?
Vraiment tout ce qu'il veut. Il y a le contrôle de la vie privée en entreprise est dramatique, il est très faible. Au début, il y avait une jurisprudence intéressante qui, petit à petit, s'est complètement détériorée. Maintenant, du moment que le salarié est prévenu qu'on va regarder ses mails, en fait, le patron peut ouvrir la boîte mail professionnelle pour regarder tous les mails. C'est assez dramatique. Et je vous parlais du débat de la rentrée. Et là aussi, il sera question de venir renforcer la vie privée au travail, qui en France est laissée à l'abandon de façon assez importante.
Isabelle Attard.
Oui, pour vous donner une idée, il faut lire aussi le reportage qui avait été fait par Jean-Baptiste Mallet sur l'entreprise Amazon et sur l'utilisation, la collecte des données personnelles des salariés qui ensuite partaient à Seattle dans cet énorme coffre-fort dont parlait l'auditeur tout à l'heure de données. Et c'est dramatique. Et rien qu'avec un exemple, celui de cette entreprise qui emploie bien des salariés français et européens dans d'autres entrepôts, pas seulement en France, l'utilisation qui est faite de ces données et de la collecte est terrifiante.
Autre question, c'est Cécile qui nous appelle de Villefranche.
Sur Saône.
Nous vous écoutons.
Bonsoir et bienvenue. Merci pour votre émission. C'était plutôt une remarque avec une question en plus après. Les GAFA, d'accord, on est méfiant, ok, mais il y a plein d'entreprises qui nous demandent sur Internet des informations personnelles et rien ne nous prouve que ces informations ne seront pas utilisées à mauvais escient. Voilà, par exemple, Blablacar, me demander cet après-midi de vérifier ma pièce d'identité. Bon, je comprends très bien pourquoi. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'après, cette pièce d'identité ne sera pas utilisée à mauvais escient par un employé ou je ne sais. Voilà, et bon, la SNCF, la banque, tout me demande des informations personnelles. Alors moi, je suis hyper méfiante. Tout à l'heure, je me suis sauvée de Blablacar. Franchement, j'ai tout arrêté, j'ai fermé mon compte. Ça m'a fait peur.
Ah, c'est dommage, ça marche très bien, Blablacar.
Oui, mais
pour les jeunes qui font du covoiturage. Mais c'est tout le hiatus des services en ligne. On est bien obligé d'en profiter. C'est un progrès. Et en même temps, il y a effectivement un risque pour les libertés individuelles.
Je crois que ce que dit Cécile est parfaitement juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on collecte une donnée personnelle sur vous, vous êtes en droit de demander pour quelle finalité elle est collectée. Et tout le travail de la CNIL, lorsque nous sommes saisis de plaintes comme la vôtre, c'est de vérifier que pour la finalité précise qui est annoncée par l'entreprise, la donnée qu'on vous demande est justifiée. Alors là, c'est votre carte d'identité. D'autres, ils demandent par exemple le casier judiciaire. Vous voyez, on n'a pas besoin du casier judiciaire dans la plupart des cas pour accéder à un service. Donc, dans l'instruction des plaintes, dans un certain nombre de cas, nous condamnons justement et nous menons des sanctions, enfin nous prononçons des sanctions à hauteur, aujourd'hui, simplement de 3 millions d'euros face à les entreprises qui font ça.
Les deux tiers des plaintes concernent des pratiques commerciales, hein.
La plupart, oui. Des pratiques commerciales ou des pratiques au sein de l'entreprise, parce qu'effectivement, la surveillance des salariés au sein des entreprises suscite énormément de plaintes. Je voudrais juste, à cette occasion, quand même nuancer le fait que la vie privée au sein de l'entreprise, elle existe. Elle existe à condition que l'employeur peut collecter des données, là encore, pour des finalités de gestion des carrières, de sécurité informatique. Il faut que ça soit justifié. En revanche...
Ou pour licencier. Pour chercher une faute.
Attendez.
Ou pour,
non, dans ces cas-là...
En fait. Oui, mais quand on ouvre les mails, c'est pour licencier la personne.
Bien sûr, mais il faut que l'employeur justifie la raison pour laquelle, justement, il doit apporter une preuve du contexte dans lequel il a collecté une donnée. En revanche, il n'est pas autorisé à surveiller de façon permanente ses salariés. Nous avons énormément de plaintes, par exemple, pour des caméras de vidéosurveillance, d'individus qui disent « mais finalement, on a mis au nom de la sécurité des caméras partout, en réalité, c'est pour nous surveiller ». Donc là, on rejoint un petit peu ce que vous disiez, et là, pour le coup, la CNIL sanctionne.
Isabelle Attard.
Oui, au nom du progrès technologique pour améliorer nos vies quotidiennes, nous faire économiser de l'argent, nous faire économiser de l'énergie, on a également l'installation en ce moment des compteurs Linky et autres Gaspar, etc.
Très contestés.
Pour moi, en tout cas, dans l'utilisation, dans la récupération des données par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'une habitation, on saura exactement combien de personnes sont à un instant T dans telle habitation, dans tel appartement. Il y a le risque de piratage parce qu'on a parlé, la personne, l'auditrice parlait effectivement de qui utilise les données. Elle ne le sait pas. Je crois qu'on n'est pas capable autour de la table de dire exactement qui va analyser quoi aujourd'hui dans le type de données qui sera récupérée. Il y a une vraie intrusion dans la vie privée. Et c'est le cas. Si Enedis se comporte comme vendeur ensuite de données personnelles pour son chiffre d'affaires, pour augmenter son chiffre d'affaires, c'est pas spécialement la finalité qui est cochée au départ. Et je précise, cette finalité, pourquoi vous donnez, vous autorisez telle entreprise à collecter vos données personnelles, ça doit être clair, ça ne l'est pas aujourd'hui. Et quand il y a plusieurs finalités, il doit y avoir plusieurs cases à cocher. Et c'est ça qui, ça fait partie des nombreux combats.
Un tout dernier auditeur, peut-être Alain, qui nous appelle de Dax.
Oui, bonsoir Monsieur Leneuf, bonsoir. Bonsoir vos invités. Votre émission ayant suscité beaucoup de paranoïa chez moi, vous avez fait allusion tout à l'heure à Quant, c'est un... Oui. Un moteur que j'utilise depuis pas mal de temps, et je me suis aperçu depuis quelques temps que très régulièrement je n'arrivais pas à accéder à certains sujets que je vais trouver sur à la concurrence, qui non. commence par un G.
Oui.
Donc je me disais de manière paranoïaque, est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que Google peut avoir, lui aussi maintenant, le moyen de contrer un petit peu un site européen et français, que je recommande à beaucoup, beaucoup de vos auditeurs.
De pirater son concurrent.
Voilà. Est-ce que je suis parano, ou est-ce que ça peut s'envisager ?
Écoutez, je n'ai pas d'informations précises sur l'affaire, mais si c'était le cas, évidemment, ce serait, je dirais, une action anticoncurrentielle extrêmement préoccupante, et que j'imagine que la Commission aurait matière, la Commission européenne aurait matière à dire quelque chose. Mais voilà.
Pas d'informations sur ce point, Isabelle Attard.
Petite recherche hier, on utilise chez nous, on utilise un autre logiciel de recherche, StartPage. Et pas Quant pour effectivement protéger nos données. On n'a pas les mêmes résultats dans la première page qui s'affiche lorsqu'on utilise un autre moteur de recherche commençant par un G, comme dirait notre auditeur.
Google.
C'est ça. Donc, faut pas oublier qu'il y a aussi les opérations de dégooglisons Internet qui circulent parce que il y a d'autres solutions.
Mais vous n'avez pas les mêmes résultats.
On n'a pas les mêmes résultats qui s'affichent. C'est efficace. Maintenant, à nous.
C'est pour les gens qui veulent rester sur l'efficacité de Google, mais sans être fichier, c'est la solution de Madame Attard est très bien, c'est start page comme la page du début, et en fait c'est juste un site qui va sur Google à votre place et vous donne les résultats. Et donc
ouais,
c'est des solutions alternatives.
Alors précisons quand même, Isabelle Falk Pirotin, que la nouvelle législation européenne, donc à partir de mai 2018, concernera les entreprises américaines situées sur le sol européen.
Vous avez tout à fait raison, c'est une nouveauté très importante de ce règlement, qu'il s'appliquera effectivement à toutes les entreprises, européennes bien sûr, mais aussi étrangères, même non établies en Europe, dès lors qu'elles ciblent un citoyen ou un consommateur européen. Et ça, c'est une avancée considérable, parce que ça remet à égalité de concurrence les entreprises européennes avec les entreprises internationales, qui aujourd'hui arguent du fait qu'elles ne sont pas établies en Europe pour ne pas respecter le droit européen. Demain, c'est fini, tout le monde au même niveau.
Juste une remarque très rapide, le ministère de l'Éducation impose Microsoft à tous les élèves, ils ont tous un compte, est-ce que c'est un problème ? C'est Adrien qui demande ça par mail.
Ah oui, c'est dramatique. En fait, les alternatives à Microsoft qui sont gratuites, elles sont géniales. Elles sont, c'est des bénévoles, comme je vous disais, qui développent ça, ça va être Linux, Debian, et elles sont gratuites, géniales, sécurisées, et c'est vraiment un scandale d'imposer juste pour faire de l'argent pour Windows.
Merci à vous, Arthur Messot, Isabelle Falk, Pierrotin, Isabelle Attard, merci à vous d'avoir participé à ce téléphone.